VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Le Monde aujourd'hui, Jean-Roger Billon à ce micro. Sommaire de cette édition du lundi 16 janvier 2023. Au Sénégal, un nouvel accident de la route a fait aujourd'hui 19 morts. Au Burkina Faso, le gouvernement a lancé des recherches en vue de retrouver les 50 femmes enlevées par les djihadistes. Dans l'est de la RDC, le bilan de l'attaque à la bombe dans une église revue à la hausse. L'armée congolaise parle de 14 personnes tuées maintenant.
Il y a d'autres suspects qui ont été interpellés par les services de sécurité.
Le capitaine Anthony Mwalou Chahi, porte-parole de l'armée congolaise à Béni, nous en dira davantage dans la partie magazine. Moscou n'y est à l'origine de la frappe à Dnipro, dont le bilan s'alourdit à 40 morts. L'Amérique commémore aujourd'hui le Martin Luther King Jr. Day. À suivre également dans cette session d'information la Minute Éco au Cameroun, les activités d'élevage menacées de ralentissement en ce début d'année 2023 et les sports. Suite ce lundi de la première journée du championnat d'Afrique des Nations, Total Énergie Algérie 2022. Bonsoir, bienvenue, on commence par le journal. Et nous commençons par le Sénégal avec ce nouvel accident meurtrier. Une collision entre un car et un camion a fait 20 morts dans le Nord alors que les transporteurs résistent à des mesures adoptées une semaine plus tôt après le décès de plus de 40 personnes dans un autre accident. Abdourahmane Dia.
Encore un autre accident mortel sur nos routes à l'entrée de Gounsar. 19 vies humaines perdues, a tweeté le président Macky Sall, avant que le gouvernement ne révise le bilan à la hausse pour le porter à 20 morts et 24 blessés, dont 19 graves. Un témoin interrogé par une radio privée a rapporté que le car avait fait un écart pour éviter un âne, un de ses nombreux animaux à divaguer sur ou au bord des routes au Sénégal. Le 8 janvier, c'est l'éclatement d'un pneu, selon l'enquête, qui avait provoqué le télescopage de deux bus dans le centre du pays. 42 personnes étaient mortes selon un nouveau bilan. Le gouvernement a annoncé dans la foulée une vingtaine de mesures. Nombre d'entre elles sont décriées comme étant inapplicables par les professionnels du transport. Nombre de professionnels ont jugé les mesures en déphasage avec les réalités économiques ou les modes de vie. Par exemple, l'interdiction faite aux bus et minibus de circuler la nuit ou l'interdiction d'importer des pneus usagés. Une partie des syndicats de transport a annoncé une grève illimitée à partir de mardi pour protester.
L'armée somalienne a repris aux islamistes radicaux Shebab le contrôle d'un port stratégique qu'ils occupaient depuis plus d'une décennie, ont annoncé aujourd'hui le premier ministre et des sources sécuritaires. Aradere, cette ville portuaire située à environ 500 km au nord de la capitale Mogadiscio, était contrôlée depuis 2010 par les Shebab, groupe affilié à Al-Qaïda. C'est une victoire historique, a déclaré ce lundi le premier ministre Hamza Abdi Barré. Au Burkina Faso, des recherches sont en cours pour retrouver une cinquantaine de femmes enlevées jeudi et vendredi par des djihadistes présumés. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le gouverneur de la région du Sahel dans un communiqué, Mohamedou Mfa.
Dès la disparition signalée de la cinquantaine des femmes enlevées au nord et à l'ouest de la commune d'Arbinda, des recherches ont été entreprises en vue de les retrouver saines et sauves, a fait savoir le gouverneur de la région du Sahel, le lieutenant-colonel Rodolphe Sorgho. Tous les moyens sont mis en œuvre sur le plan terrestre et aérien pour retrouver ces femmes, a précisé une source sécuritaire, assurant que des aéronefs survolent la zone pour détecter tout mouvement suspect. C'est le premier enlèvement massif depuis le début de la crise sécuritaire et il faudra bien gérer cette situation pour éviter tout drame ou une récidive, a déclaré un officier supérieur proche de l'état-major. Ces femmes ont été enlevées alors qu'elles étaient sorties à la recherche de fruits sauvages. Des habitants d'Arbinda croient savoir que les ravisseurs les ont amenées dans leurs différentes bases. La commune d'Arbinda se situe dans la région du Sahel, une zone sous blocus de groupes djihadistes et qui est difficilement ravitaillée en vivres.
L'ONU a exigé la libération immédiate et inconditionnelle des femmes enlevées. Le haut commissaire aux droits de l'homme, l'Autrichien Volker Türk, s'est dit dans un communiqué alarmé par ces enlèvements de dizaines de femmes qui, selon lui, pourraient être la première attaque de ce type ciblant délibérément des femmes au Burkina Faso. Au Nigeria, l'évêque catholique du diocèse de Sokoto affirme que les élections générales du 25 février sont cruciales vital pour l'avenir du pays et que les Nigériens ne doivent pas rester en marge du processus. Matthew Okuka a dit comprendre le désintérêt de ses compatriotes et leur impuissance à raison de la corruption persistante des élus, de l'incapacité de l'élite politique à répondre aux préoccupations nationales et à l'insécurité. Mais l'évêque Okuka espère que les jeunes Nigériens pourront canaliser leur colère en vote qui permettront, selon lui, au pays de s'attaquer aux problèmes qui affectent leur survie commune. En Tanzanie, le chef du principal parti d'opposition et ancien candidat à la présidence, Tundu Lissou, a annoncé son retour au pays le 25 janvier. Tundu Lissou a fui la Tanzanie il y a 2 ans pour se réfugier en Europe à la suite de l'élection présidentielle controversée de 2020, estimant que sa vie était en danger. Sa décision de revenir en Tanzanie intervient après que la présidente Samia Suluhu Hassan a levé au début du mois l'interdiction des rassemblements de l'opposition imposée il y a 6 ans par le défunt président John Magufuli.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Des voix s'élèvent pour dénoncer la frappe russe sur un immeuble résidentiel de Dnipro en Ukraine, dont le bilan s'est alourdi à 40 morts. Moscou dément toute responsabilité et s'insurge contre la poursuite des livraisons d'armes occidentales à l'Ukraine. Les précisions de Timothée Donangmaï.
La présidence suédoise de l'Union européenne qualifie le raid de samedi sur Dnipro de crime de guerre dont les responsables devront être poursuivis. La Suède et l'Union européenne condamnent dans les termes les plus forts les attaques systématiques et continues de la Russie contre les civils, les propriétés civiles et les infrastructures essentielles en Ukraine, a déclaré le Premier ministre Ulf Kristersson lors d'une conférence de presse conjointe avec le président du Conseil européen, Charles Michel. Les équipes de secours qui s'activent sur les ruines de l'immeuble touché par le tir de missile de samedi font état, en plus de 40 morts, de 75 blessés et de 34 personnes dont le sort n'est pas connu. Le Kremlin dément toute responsabilité dans le carnage de Dnipro. Pour le porte-parole de la présidence russe, Dmitry Peskov, c'est une tragédie pouvant être due à un tir de la défense antiaérienne ukrainienne. Lors d'une conversation téléphonique ce lundi avec son homologue turc Recep Tayyip Erdogan, le président russe Vladimir Poutine a dénoncé les livraisons croissantes d'armes occidentales à l'Ukraine au moment où le Royaume-Uni s'apprête à livrer des chars à Kiev.
Le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme a indiqué ce lundi que 7031 civils avaient été tués en Ukraine depuis l'invasion du pays par la Russie en février dernier. La plupart des décès de civils se sont produits dans des zones de l'Ukraine contrôlée par Kiev. Et selon l'Ukraine, le nombre de victimes civiles pourrait s'élever à plusieurs dizaines de milliers. Moscou et Kiev démentent tous deux avoir ciblé des civils. Ce lundi est jour férié ici aux États-Unis pour les employés du gouvernement et dans certaines entreprises privées pour marquer l'anniversaire du leader des droits civiques, Martin Luther King Jr., qui aurait eu 94 ans hier. Il a été assassiné le 4 avril 1968. Le point avec Rosine Monizero.
Le président Joe Biden s'est rendu à l'église de Martin Luther King à Atlanta pour célébrer l'œuvre du pasteur et militant des droits civiques et de la lutte contre la ségrégation raciale. Il est le premier président en exercice à s'exprimer pendant l'office du dimanche à la Ebenezer Baptist Church. Le locataire de la Maison Blanche a estimé que son rêve d'égalité et de justice décliné dans son célèbre discours « I have a dream » n'était pas encore devenu réalité et appelé une nouvelle fois à se battre pour l'âme de l'Amérique. Joe Biden avait été invité à Atlanta par Raphael Warnock, aujourd'hui le principal pasteur de l'Église, mais aussi un sénateur démocrate qui a remporté, en novembre dernier, un scrutin disputé contre un candidat adoubé par l'ancien président Donald Trump. Le King Day, comme on l'appelle ici, est l'occasion de revisiter l'œuvre du célèbre pasteur noir à travers des marches et différents types de rencontres. C'est aussi l'occasion de se pencher sur des questions comme les armes à feu et la non-violence. Martin Luther King, prix Nobel de la paix en 1964, avait été assassiné en 1968 à Memphis, dans le Tennessee.
Et la gendarmerie italienne a arrêté ce lundi Matteo Messina Denaro, le chef le plus recherché de la mafia en Italie, qui était en fuite depuis 1993 dans un hôpital privé de la capitale sicilienne, Palerme. Voilà pour le journal. Vous suivez VOA Afrique. À présent, la Minute Éco avec Mohamedou Mfa.
Au Cameroun, les activités d'élevage devraient connaître un ralentissement au cours des trois premiers mois de l'année 2023, selon les projections de la BEAC, la Banque des États de l'Afrique centrale. Cette projection pessimiste repose sur la dégradation des pâturages et le tarissement des points d'abreuvement. En plus de ces effets de la sécheresse qui sévit souvent dans le pays en ce moment de l'année, la BEAC cite l'insécurité, notamment le grand banditisme, le vol de bétail et les menaces du groupe islamiste Boko Haram. La Chine et l'Égypte se sont engagés à maintenir leur soutien mutuel, à renforcer la coopération dans divers domaines et à approfondir leur coordination dans les affaires régionales et internationales, a déclaré dimanche le ministre chinois des Affaires étrangères, Qin Gang, en visite au Caire. La Chine est disposée à importer davantage de produits égyptiens de qualité et inciter plus d'entreprises chinoises à investir et faire des affaires en Égypte, a-t-il affirmé. Le groupe énergétique italien Eni a annoncé dimanche avoir fait une nouvelle découverte de gaz dans un champ offshore égyptien en Méditerranée orientale qui devrait être accéléré à la production via ses installations existantes. Comme de nombreux pays occidentaux, l'Italie cherche des alternatives au gaz russe à la suite de l'invasion russe de l'Ukraine.
Place maintenant au sport avec Timothée Donagmaï. Bonsoir Tim.
Bonsoir Jean-Roger.
Suite ce lundi de la première journée du championnat d'Afrique des Nations Total Énergie Algérie 2022 avec deux matchs au stade olympique d'Oran.
Et oui Jean-Roger, le second match est un derby d'Afrique centrale qui oppose le Cameroun à son voisin le Congo. On est toujours à 0-0 alors qu'on s'est rendu à la 42e minute de match. En première rencontre, le Mali et l'Angola se sont neutralisés 3-0 alors que les jeunes Angolais pensaient filer vers une victoire par 3-1. Les Aiglons maliens ont pris de la hauteur, d'abord par Yoro Diaby à la 78e minute, puis Ousmane Koulibaly à la 83e pour imposer le nul et arracher un point. La deuxième journée débute demain avec les rencontres Mozambique-Libye et Algérie-Éthiopie. Ce sera au stade Nelson Mandela d'Alger.
Le forfait du Maroc continue d'alimenter les discussions.
Les jeunes marocains s'étaient pourtant présentés à l'aéroport de Rabat Salé très tôt vendredi dans l'espoir de rejoindre l'Algérie. Mais toutefois, les autorités algériennes n'ont pas donné leur accord pour le vol direct Rabat-Alger en raison de la fermeture depuis 2021 de l'espace aérien algérien à tous les vols directs en provenance du Maroc. Du coup, les lionceaux marocains ont fait les frais du différend politique entre leur pays et l'Algérie.
Un transfert de la Major League Soccer, la Ligue nord-américaine, vers la Premier League anglaise a signalé.
En effet, le club anglais d'Aston Villa a annoncé avoir conclu un accord pour recruter l'attaquant colombien John Durant du Chicago Fire pour 18 millions de livres sterling, soit environ 20 millions d'euros. L'accord est soumis à la réussite par le joueur d'un examen médical, à l'acceptation des conditions personnelles et à l'obtention du permis de travail nécessaire, précise Aston Villa. Durant a marqué 8 buts et réussi 5 passes décisives en 27 apparitions pour Chicago la saison dernière à Major League Soccer.
Sport et politique avec le club ukrainien de Shakhtar Donetsk qui promet de venir en aide aux soldats ukrainiens et leurs familles en lutte contre l'invasion russe.
Le Shakhtar Donetsk vient, il faut le dire, d'engranger plusieurs millions d'euros après son transfert à Chelsea en première ligue de l'ailier de 22 ans Mykhailo Mudryk. Le président du club ukrainien, Rinat Akhmetov, a annoncé avoir alloué 23,11 millions d'euros, soit 25 millions de dollars, à l'aide aux familles ukrainiennes et aux soldats. Et ces fonds seront utilisés pour fournir l'assistance médicale, des prothèses, ainsi qu'un soutien psychologique.
Un mot de tennis pour terminer avec l'Open d'Australie qui a démarré ce lundi à Melbourne.
Chez les messieurs, victoire du tenant du titre, l'Espagnol Rafael Nadal, 3-7-1 contre le Britannique Jack Draper. Victoire à l'arraché, 3-7-2 de l'Américain Mackenzie McDonald contre son compatriote Brandon Nakashima. Et celle d'un autre Américain, Frances Tiafoe, fils d'immigrants sierra-léonais, contre l'Allemand Daniel Altmaier, 3-7-1. Et chez les dames, l'Espagnol Cristina Buxa a défait l'Allemande Evalis, 2-7-1. L'Américaine Danielle Collins a battu sur le même score la Russe Anna Kalinskaya. Victoire de l'étoile montante du tennis américain Coco Gauff, 2-7-0 contre la Tchèque Katerina Siniakova. Et enfin la Française Clara Burel qui est venue à bout de l'Australienne Talia Gibson, 2-7-0.
Page de sport VOA Afrique signée Timothée Donangmaï.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Dans l'est de la République démocratique du Congo, le bilan de l'attentat à la bombe improvisée d'hier dans une église à Kazindi, dans le territoire de Beni, est passé à 14 morts et 63 blessés. Deux suspects de nationalité kényane ont été arrêtés. L'un est sérieusement blessé. Les enquêtes se poursuivent. Eddy Sango a joint à Beni le porte-parole de l'armée congolaise dans ce secteur, le capitaine Anthony Mwalushai.
D'abord, il faut savoir que le bilan a évolué. Et hier, on parlait de 10 morts du côté des populations. Mais aujourd'hui, le bilan est revu à la hausse. Il y a 14 de nos compatriotes qui ont perdu la vie. Et du côté des blessés, nous avons enregistré maintenant 63 blessés. Du côté kamikaze, nous avons un suspect qui a été parmi les blessés. Et nous sommes en train de l'identifier parce que pour l'instant, il ne parle pas. Il est blessé grave. Il a été pris en charge par l'armée à travers les services de santé. Et nous prions le bon Dieu pour qu'il les garde encore à vie, pour que nous ayons encore d'autres informations sur cette attaque. Alors, il faut dire que toujours du côté des enquêtes, l'armée et les services de sécurité ont évolué positivement avec les enquêtes. Il y a d'autres suspects qui ont été interpellés par les services de sécurité, y compris quelques membres de la paroisse où il y a eu vraiment l'attentat. Selon les témoignages que nous sommes en train de recevoir sur terrain, nous pensons que dans les heures qui suivent, nous allons encore arrêter d'autres suspects.
Vous accusez les ADF pour cet attentat, mais en même temps, vous parlez de membres de la paroisse qui ont été arrêtés. Ça veut dire que ces membres de la paroisse seraient complices, d'après vous?
Non, c'est trop tôt de dire complices, mais quand parmi les enquêtes, il y a toujours des suspects et aussi des gens qui peuvent vraiment témoigner. Vous êtes sans ignorer que ce sont les gens qui ont vécu l'événement et même le service des gardiennages qui assurait la sécurité de fidèles, a été aussi interpellé. Et les gens qui ont travaillé pendant ces heures-là sont en train d'être auditionnés. Donc tout le monde qui de l'un ou de près a participé à cette culte, pour l'instant, on est en train d'auditionner pour en savoir plus. Mais le suspect a été déjà arrêté hier, les sujets kenyans. Et aujourd'hui, nous avons identifié parmi les victimes un autre suspect, mais qui est gravement blessé. Nous pensons vraiment qu'avec les temps et les soins qu'il va recevoir, et il peut se rétablir et répondre à nos questions.
Comment expliquer que vous avez mis en déroute, comme vous l'avez dit précédemment, les ADF, qui est un groupe qui a fait allégeance au groupe État islamique, et qu'aujourd'hui, vous avez mis un système de sécurité et qu'il y ait quand même eu cet incident-là?
Ben écoutez, c'est du terrorisme, même aux États-Unis, même partout dans le monde. On ne peut pas expliquer comment des milieux sécurisés, quelqu'un peut infiltrer. Et du terrorisme, c'est différent de la guerre classique. Donc, quelqu'un peut s'habiller en civil et pénétrer le fidèle, déposer une bombe. Nous faisons face à une guerre asymétrique. Et c'est vraiment différent de la guerre classique. Donc, si on se met à raisonner et comment et pourquoi et c'est arrivé, nous risquerons de ne pas avoir des réponses. Donc, l'ennemi n'est pas idiot. Il est en train de faire le tout possible pour pénétrer notre population et faire mal. Et nous, en tant que service de sécurité, et ensemble avec la population, nous devons collaborer pour détecter ces gens qui sont dans la population, dans la cité, pour les mettre hors d'état de nuire.
C'était le capitaine Anthony Mwalushai, porte-parole de l'armée congolaise à Beni.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24h sur 24 à Goma en RDC sur 96.2 FM.
Au Tchad, des habitants de la province du Logon occidental, capitale économique, dénoncent ce qu'ils considèrent comme une ambiguïté autour de la création d'une zone économique spéciale au profit d'une société étrangère pour gérer le complexe de l'abattoir de Mundu. Quelques 3400 hectares jusque-là exploités par des producteurs ruraux de plusieurs villages feront désormais partie d'une zone industrielle. Ces populations dénoncent un accaparement des terres. La correspondance d'André Côte-Bajinga à N'Djamena pour VOA Afrique.
Pour l'exploitation industrielle de ce complexe d'une capacité d'abattage de 250 bovins et plus de 5000 ovins caprins par jour, le gouvernement a réquisitionné 3400 hectares de terres cultivables. La gestion de cette zone sera confiée à une société étrangère. Les producteurs ruraux qui ne vivent que d'agriculture disent n'avoir pas été consultés.
On dit un développement sans toi et contre toi. Et aujourd'hui, c'est ça l'approche. On ne peut pas imposer un projet pour dire qu'on va prendre des terres des gens qui ne vivent que de l'agriculture. Et avec la densité de la population, mais ces gens-là vont aller où? Il faut d'abord vivre pour que le projet puisse te profiter.
Même la terre qui va être arrachée actuellement, certains champs sont sélectionnés pour borner.
Pour le moment, la population de Kana n'est pas tranquille.
Les gens ont camouflé les choses sans informer les chefs de village. En même temps, ils ont signé un papier où personne n'est au courant de rien. Maintenant, toute la population s'est levée contre le chef de canton. Nous, on accepte l'installation des usines, mais avec certaines conditions. Nous demandons à l'État de revoir la population.
Ils sont venus anarquer la population sur son terrain. À ce niveau-là, il y a injustice là. C'est une concurrence qui n'a pas son nom.
Des démarches formelles ont été entreprises auprès des autorités de transition par l'Alliance des coopératives et mutuelles du Tchad afin de surseoir à ce projet qu'elle qualifie d'accaparement de terres de producteurs ruraux, mais sans succès. Diop Kodundo est le coordonnateur de ce regroupement.
Au moment où nous attendons une réponse concrète du gouvernement et du Conseil national de transition, le Premier ministre de transition 2, c'est-à-dire l'actuel, et son gouvernement nous plantent un couteau dans le dos en prenant une ordonnance qui entérine des propositions de création des zones économiques spéciales par Olam Araïs.
Pour le secrétaire général de la coopérative agro-silvopastorale, Dominique Madingarty, la réquisition de ces terres rend les populations plus vulnérables.
Dans les terres que les gens veulent arracher et remettre à disposition de l'abattoir, là, c'est la terre fertilisante où le taux de rendement est trop élevé dans ces zones-là. Donc, nous, les producteurs, on a aussi d'autres alternatives proposées à l'État de s'asseoir ou de surseoir ce projet qui est en train de vouloir mettre à genoux la production agricole dans la province du Gorizontal. Il y a des zones moins fertiles qui sont là qu'on peut proposer et en commun accord avec la population à exploiter au détriment de la terre riche où les gens sont en train d'exploiter aujourd'hui, que les gens partent arracher et mettre à disposition de l'abattoir. Nous, les producteurs, nous demandons pardon d'arrêter avec cette manière de précipitation pour tout gâter.
Le cabinet du ministère de Commerce s'intéresse de cette ordonnance vers qui nous nous sommes rapprochés pour avoir la version officielle du gouvernement n'a pas répondu à notre demande. La visite du président de la transition, Mohamed Idriss Déby, annoncée pour cette semaine à Mundu pour inaugurer ce complexe industriel, n'est pas encore confirmée. André Kotumba Djingar, Mundu, dans le Logone occidental, pour VOA Afrique.
Djamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
Au Kenya, un groupe d'étudiants a mis au point un moyen unique et efficace pour lutter contre la faim dans le monde. Il s'agit d'un amidon comestible fait à partir de l'herbe qui peut être utilisée pour faire du porridge et de l'ougali, un repas de base au Kenya. Les étudiants pensent que leur innovation contribuera à éradiquer la faim dans le monde. Les détails avec Thierry Kaori.
Dans ce laboratoire de l'université Kabara, dans le comté de Nakuru de Nairobi, Faith Wadia, une étudiante de 24 ans et ses camarades travaillent sur des herbes qu'ils ont récoltées dans la nature afin de les rendre comestibles.
Après avoir récolté l'herbe, nous la lavons pour enlever les impuretés. Après l'avoir lavée, nous la séchons. Après le séchage, nous la broyons pour en faire une poudre. Après le broyage, nous ajoutons nos enzymes. Ensuite, nous la mettons dans le réacteur. Une fois que la réaction a eu lieu, nous la retirons et la mettons dans la centrifuge où nous allons séparer l'amidon de la solution. Ensuite, nous la mettons dans le four pour la sécher. Après l'avoir retiré, nous effectuons un test d'amidon pour confirmer qu'il s'agit bien d'amidon. Après cette confirmation, nous ajoutons d'autres nutriments pour le fortifier.
Toutes les espèces d'herbes peuvent être utilisées tant qu'elles ne sont pas toxiques, mais les étudiants ont décidé de se spécialiser dans le bermuda et le seigle car ces graminées résistent à la sécheresse et aux inondations et leur récolte ne dure que 2 mois. Le produit final, qui sera une farine d'amidon, peut être utilisé en lieu et place de la farine de maïs ou du blé. Faith Wandia et ses camarades ont néanmoins testé leur produit pour s'assurer qu'il est bien comestible.
Nous avons déjà testé notre produit dans le laboratoire de l'université et nous avons confirmé qu'il est propre à la consommation humaine. Nous attendons maintenant l'autorisation des autorités compétentes avant de commencer la production de masse. Le coût de production d'un kilo de notre farine est de 19 centimes de dollars et elle sera vendue au détail pour 30 centimes.
Selon Stéphane Otieno, expert en sécurité alimentaire, le monde est loin d'atteindre les objectifs d'éradication de la faim et de telles richesses sont les bienvenues.
Le monde n'est pas en mesure d'atteindre les objectifs de développement durable visant à mettre fin à la faim et à la malnutrition d'ici 2030. C'est pourquoi il est très encourageant de voir les innovations des étudiants, notamment ceux qui transforment l'herbe en amidon comestible. Si vous regardez les tendances mondiales, vous verrez que la viande est également produite dans les laboratoires et c'est pourquoi je pense qu'il est très important que cette recherche et cette innovation soient encouragées parce que cela pourrait potentiellement aider à mettre un terme à la faim dans le monde.
Environ 811 millions de personnes souffrent de faim dans le monde, selon les Nations Unies, et de telles innovations peuvent jouer un rôle essentiel dans la lutte contre la faim.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Comme chaque troisième lundi du mois de janvier, les Américains célèbrent aujourd'hui l'anniversaire du militant des droits civiques, Martin Luther King Jr., né le 15 janvier 1929 à Atlanta. À cette occasion, le président Joe Biden a effectué un pèlerinage historique à l'église baptiste King's Ebenezer. Monsieur Biden dit que la démocratie est à un moment périlleux et que la vie et l'héritage du leader des droits civiques devraient être au centre des attentions. Pour le président des États-Unis, le rêve de Martin Luther King n'est toujours pas réalisé. Les détails avec Blanche Sanon.
S'exprimant à l'église de Martin Luther King Jr., le président Joe Biden a déclaré que le rêve d'égalité raciale et de justice du leader américain des droits civiques ne s'était pas encore réalisé et a renouvelé son appel à se battre pour l'âme de l'Amérique. Écoutons le président Joe Biden.
La bataille pour l'âme de cette nation est éternelle. C'est une lutte constante. C'est une bataille entre l'espoir et la peur, la gentillesse et la cruauté, la justice et l'injustice. Contre ceux qui se livrent au racisme, à l'extrémisme et à l'insurrection. Un combat mené sur les champs de bataille, des ponts, des palais de justice, des urnes et des protestations.
Martin Luther King aurait eu 94 ans cette année. Le président américain a rappelé le discours le plus célèbre de l'icône de la lutte pour les droits civiques et contre les discriminations raciales assassiné à Memphis en 1968. Le président Joe Biden a repris le refrain « J'ai un rêve » en exhortant les Américains à créer une communauté forte.
Nous devons choisir la communauté plutôt que le chaos. Sommes-nous les gens qui allons choisir l'amour plutôt que la haine? Ce sont les questions vitales de notre époque et c'est l'une des raisons pour laquelle je suis ici en tant que président. Je crois que la vie et l'héritage du Dr. King nous montrent le chemin et nous devrions faire attention. Je le fais vraiment.
Yolanda King, petite fille de Martin Luther King, a pris la parole lors des rassemblements contre la violence armée à Washington, D.C., exhortant les Américains à faire entendre leur voix par des bulletins de vote et non des balles.
Are you ready? Êtes-vous prêt, jeune et vieux? Êtes-vous prêt à être une génération qui se fait entendre par des bulletins de vote et non des balles? Beaucoup d'entre nous portent nos chaussures de marche depuis des années. Mais aujourd'hui, nous disons au Congrès, nous disons au lobby des armes à feu et nous disons au monde que cette fois est différente. Cette fois est différente parce que nous en avons assez. Nous en avons assez d'avoir plus d'armes à feu que de personnes ici en Amérique.
Des rassemblements sont organisés à travers les États-Unis pour célébrer le héros de la lutte pour les droits civiques et pour exiger que le Congrès adopte des modifications significatives des lois sur les armes à feu à la suite des récentes fusillades de masse dans le pays.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro, à la mise en onde Joselle Morissin. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité.